Bien, bonsoir. Merci pour votre fidélité sur un sujet qui ne s'y prête pas forcément. Donc aujourd'hui, la suite et la fin de la présentation des positions hostiles à la prostitution et qui donc nourrissent le projet de son abolition, et puis le début de la présentation des positions adverses qui défendent l'existence de cette même prostitution. Hein, je m'excuse, j'ai été plus long que prévu dans ma généalogie des termes du débat actuel, abolitionnisme et réglementarisme, donc le tout est un petit peu décalé, mais on arrivera à refermer la boucle la semaine prochaine. Alors là, j'avais évoqué la semaine dernière l'ouvrage de Kathleen Barry qui a été important par son retentissement, qui lui-même était lié à sa dimension quelque peu sensationnaliste. Hein. Comme je l'avais indiqué, son livre « L'esclavage sexuel de la femme » reprend un ensemble de schèmes percutants du discours de l'abolitionnisme historique, spécialement le schème de la traite des êtres humains, qui est propice à susciter l'indignation. Mais c'est précisément un ouvrage, je crois, qui repose précisément sur l'indignation suscitée par l'exposition de situations scandaleuses, mais finalement assez peu sur une argumentation élaborée. Alors, d'autres intellectuels féministes ont, de ce point de vue, élaboré une réflexion que je crois plus intéressante, plus raffinée. La première que je vais citer, c'est Julia O'Connell Davidson, qui est une sociologue britannique, qui a notamment conduit des études sur le travail domestique, sur l'émigration et sur la prostitution, ce qui l'a amenée à être assez critique à l'égard de la thématique de la traite des êtres humains, dont elle considère qu'elle s'appuie sur une image misérabiliste des prostituées migrantes, et légitime ce faisant des politiques qui visent à préserver la sécurité intérieure des pays plutôt qu'à venir en aide aux prostituées migrantes elles-mêmes. Donc quelqu'un qui a un rapport assez critique aux thématiques abolitionnistes dominantes. Et elle a également travaillé sur la prostitution de luxe, qu'elle prend pour exemple dans un article intitulé « L'anatomie du libre choix de la prostitution », donc en version originale « The Anatomy of Free Choice Prostitution », avec des guillemets autour de « free choice », de « libre choix de la prostitution ». Donc un article paru en 1995 dans la revue « Gender Work Organization ». Et elle décrit le travail d'une prostituée de luxe qui rencontre ses clients chez elle, dans ce qui ressemble, ça nous est décrit comme une espèce de cabinet de dentiste d'une propreté impeccable. Prostituée qui sélectionne ses clients, qui les fait payer cher, qui exerce de manière indépendante, sans être soumise à un proxénète. Et ce que décrit O'Connell Davidson, c'est vraiment la prostitution exercée dans les conditions les plus favorables, et qui permet d'accéder à un train de vie confortable. Hein. La prostituée, dont elle décrit les activités, salarie une réceptionniste qui prend ses rendez-vous avec les clients, et qui fait aussi l'accueil des clients sur place. C'est une prostituée qui possède deux propriétés, qui roule en BMW, qui auparavant travaillait comme secrétaire et qui s'ennuyait dans cet emploi et puis qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts avec cet emploi. Et donc, face à ses difficultés financières, elle a commencé à se prostituer et donc elle y a trouvé son compte. Et donc l'auteur, O'Connell Davidson, nous décrit tous les savoir-faire et compétences de cette prostituée de luxe, à la fois en termes de gestion de son affaire, de publicité hein, sur ses activités, de relations avec ses clients, notamment il faut aussi, faut à la fois se montrer affective avec eux, se montrer attentive, chaleureuse pour qu'ils aient envie de revenir, mais sans en faire trop pour qu'ils ne tombent pas amoureux, ce qui créerait des problèmes assez insurmontables pour son activité. Et puis des compétences en matière sexuelle pour là aussi que le client soit content, il ait envie de revenir sans que ça exige trop de sa part à elle. Également en étant attentive à préserver sa santé. Et c'est quelqu'un qui gagne suffisamment d'argent pour pouvoir refuser les clients qui ne veulent pas utiliser de préservatif. Et puis elle est suffisamment informée des risques pour la santé de son activité pour se préserver de tout problème, de tout risque. Et puis, elle maîtrise suffisamment son activité pour être en mesure d'imposer sa volonté au client et contrôler l'interaction avec lui. Donc, c'est elle qui pilote, qui dirige les interactions avec les clients. Donc, cette situation qui nous est décrite est en quelque sorte la plus favorable, celle à laquelle, d'une certaine manière, on peut rien objecter. Hein, la personne est indépendante, Personne ne l'a forcée à cette activité. Elle paraît s'y épanouir. En tout cas, elle gagne effectivement assez bien sa vie, mieux que dans un emploi normal qu'elle aurait les moyens d'exercer. Donc, en l'occurrence, oui, de secrétaire. C'est pas, j'ai oublié de le dire, c'est pas un personnage fictif. Hein, c'est vraiment quelqu'un qu'elle a rencontré au cours de son enquête sociologique. Et je dirais, à bien des égards, sa situation à cette prostituée de luxe est plus favorable que celle de nombreux travailleurs qui n'ont pas choisi leur métier, un métier qui peut être dangereux, mal payé, avec des horaires contraignants, et un métier qui pourrait les placer dans une situation de dépendance à l'égard d'un supérieur, d'une autorité hiérarchique. Et pour autant, O'Connell Davidson conclut que même dans ces conditions les plus favorables, la prostitution pose problème. Alors, cependant, elle ne rejoint pas les féministes radicales que j'avais évoquées la semaine dernière. Elle pointe et elle prend au sérieux le fait que les clients de cette prostituée, ne sont pas uniquement des espèces de brutes lubriques qui veulent juste une satisfaction érotique anonyme, d'autant plus satisfaisante qu'elle serait violente, hein, ce qui est le discours des féministes radicales. Elle prend au sérieux, au contraire, le fait que ces hommes viennent consulter la prostituée avec des fantasmes, qu'ils la considèrent comme un être humain à part entière, avec certaines caractéristiques désirables, et pas simplement comme un morceau de viande. Mais elle pointe aussi le fait que cette prostituée doit se conformer à ses attentes fantasmatiques de ses clients, et que ce faisant, elle doit en partie s'annuler en tant que personne. Ce ne sont pas ses désirs à elle qui président, mais ce sont ceux des clients. Si elle faisait prévaloir ses désirs à elle, ben elle ne garderait que les clients qui lui plaisent. Et son affaire péricliterait rapidement, d'autant plus qu'elle aurait peut-être du mal à préserver une relation qui serait purement mercantile. Donc, nous dit O'Connell Davidson, il y a oblitération de sa propre sexualité chez la prostituée, et elle insiste, la sociologue, insiste sur le coût psychologique de ce travail de mise à distance de sa propre sexualité qu'exige la prostitution de la part de la personne qui l'exerce. Donc il y a, toujours selon la sociologue, une limite dans la dimension volontaire de cette prostitution. La rentabilité de l'activité, hein, c'est ce qui est attendu de cette activité, elle exige de la prostituée qu'elle traite sa clientèle comme un tout, parce que si elle commençait à se montrer trop sélective, si d'une certaine manière elle personnalisait ses clients, elle ferait rapidement faillite. Donc la prostitution, ça suppose la mise à disposition contre rétribution du corps de la prostituée à ses clients dans des conditions qu'elle définit et contrôle, mais seulement partiellement. Et de ce point de vue, sa situation n'est pas très différente de celle des salariés qui vendent leur force de travail à un employeur. Eux aussi mettent leur corps à disposition contre rétribution, ils mettent leurs bras et leur tête à disposition d'un employeur qui finalement est lui aussi une figure abstraite, parce qu'ils ne peuvent pas totalement le choisir et n'ont pas de réelle maîtrise sur lui. Alors, spécialement, comme c'est le cas actuellement, dans une situation de marché du travail dégradé où il est plus difficile de choisir son emploi et son employeur. Le rapport de force entre le salarié et l'employeur est défavorable au premier. Alors, au passage, ce type de rapprochement entre prostitution et travail salarié, c'est pas nouveau, loin de là. C'est un parallèle qui a nourri la pensée socialiste du XIXe siècle, notamment avec Marx qui disait dans les manuscrits de 1844 que, je cite, « la prostitution n'est qu'une expression particulière de la prostitution générale de l'ouvrier ». Mais chez ces penseurs socialistes, la comparaison était destinée à éclairer le salariat par la prostitution, alors qu'ici c'est l'inverse, la démarche intellectuelle est inverse, il s'agit d'éclairer la prostitution, c'est le salariat voilà, qui éclaire la prostitution, qui aide à comprendre comment la prostitution fonctionne. Alors, d'où une première conclusion de O'Connell Davidson, à partir de cette similitude entre travail salarié et prostitution, c'est que, effectivement, on peut considérer la prostitution comme un métier, et il n'est pas illégitime de revendiquer sa reconnaissance comme telle. Effectivement, le parallèle est fructueux intellectuellement, la prostituée se trouve dans une situation comparable à celle du salarié, mais la réserve qu'elle oppose immédiatement, c'est que si c'est reconnu comme un métier, eh bien, ça sera comme un de ces métiers dévalorisés, éprouvant physiquement et psychologiquement, comme ceux qui relèvent du care, du soin pour le corps d'autrui, tels que les assistantes de vie qui s'occupent des personnes dépendantes. Et elle suggère que raviver les virilités faiblardes de certains clients ou changer les couches des grabataires sont finalement pas si éloignés et en fin de compte pas si valorisants que ça quand on y songe. Alors, c'est un rapprochement qui me semble intéressant pour des raisons que je ferai que mentionner parce que les recherches sont peu développées. Mais de toute évidence, et justement je pense que la réflexion de O'Connell Davidson est stimulante sur ce point-là, il y a des proximités entre ce qu'on appelle le care et la prostitution. Hein. Et les travaux historiques, et notamment mais pas seulement ceux d'Alain Corbin, ont montré qu'au XIXe siècle, il y avait des passerelles très fréquentes entre le travail de domestique et celui de prostituée. Hein. Alors domestique, de bonne à tout faire dans les maisons bourgeoises. Alors, c'est quelque chose qui est attesté pour, on va dire, le 19e siècle, le début du 20e siècle, c'est-à-dire que dans la carrière d'une même personne, le passage de bonne à tout faire dans une maison bourgeoise et prostituée était relativement fréquent. Mais les travaux contemporains confirment cela dans les processus migratoires actuels. Hein. Les femmes migrantes se retrouvent de manière, entre guillemets, privilégiée, dans les emplois de domestiques, de nounous, etc., avec tous les stéréotypes racistes que ça suppose, ou bien elles se retrouvent dans la prostitution, et certaines font des allers-retours entre les deux. Alors je pense notamment à une étude de Florence Lévy et Marilène Lieber sur les prostituées chinoises à Paris, qui commencent comme bonnes à tout faire chez des compatriotes, où elles sont effroyablement exploitées, et qui finissent par se dire que la prostitution, c'est un moindre mal, parce que, en fin de compte, elles sont libres de leur emploi du temps, elles gagnent plus qu'en étant domestiques, corvéables 24 heures sur 24, et en plus, elles peuvent espérer trouver un client qui tombe amoureux d'elles et qui leur propose le mariage, c'est-à-dire aussi une régularisation par des papiers. Hein. Et le cas n'est pas aussi si rare que ça. Donc bonne à tout faire et prostituée sont typiquement des emplois dévalorisés, spécifiquement féminins, qui supposent une emprise sur le corps d'autrui, hein, dans la société bourgeoise du 19e et du début du 20e siècle, la bonne à tout faire, elle vit au domicile de ses employeurs, elle partage leur intimité, et elle est disponible à toute heure, éventuellement pour des services sexuels. Et je connais quelques anciennes prostituées qui aujourd'hui sont aides à domicile pour des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, et je crois que c'est pas un hasard si il y a ce type de reconversion, c'est-à-dire qu'il y a une proximité qui n'est pas immédiatement perceptible, mais une proximité malgré tout qui se joue entre ces deux registres d'activité. Alors je referme cette parenthèse, je reviens au O'Connell Davidson. Donc elle avance, la sociologue, que la prostitution peut être approchée du salariat parce qu'elle suppose une mise à disposition de son corps pour autrui, mais néanmoins elle souligne une différence avec les autres emplois. Ce ne sont pas n'importe quelle partie du corps qui sont mises à disposition dans la prostitution, c'est-à-dire des organes sexuels. Et ces organes sont définis dans nos sociétés comme des éléments essentiels de la valeur et de l'identité de la personne, qui ont notamment à voir avec son honneur et sa position sociale. Le fait de mettre son sexe à disposition de quelqu'un contre rétribution, ce n'est pas la même chose que mettre ses bras à disposition. C'est socialement construit comme un déshonneur et ça implique des conséquences sur l'estime de soi de la personne et ça oblige cette même personne à ce que la sociologie appellerait une gestion du stigmate. Et même la prostituée de luxe qui est étudiée par O'Connell Davidson, celle qu'elle prend pour exemple, dans la meilleure situation possible pour une prostituée, malgré sa maîtrise de son activité, malgré son train de vie, elle est confrontée à ce problème et elle doit, par exemple, restreindre et contrôler ses relations sociales en masquant ses sources de revenus à ses proches, à ses amis, à sa famille, etc. Donc, malgré tout, il y a quelque chose qui fait une différence, qui se joue autour de la place de la sexualité dans notre société, qui distingue la prostitution d'autres activités salariées. Alors, je vais revenir la semaine prochaine plus amplement sur cette question du stigmate attaché à la prostitution, mais je vais poursuivre la réflexion engagée à partir de O'Connell Davidson en envisageant, en poursuivant sur cette question de la spécificité de la sexualité avec une autre auteure importante qui est Carol Patman, qui est une philosophe britannique qui a publié en 1988 un livre important qui a été traduit assez tardivement en 2010 sous le titre « Le contrat sexuel » aux éditions de la Découverte. Alors, c'est une philosophe et elle se livre à une critique dans ce livre des théories du contrat social, comme celle de Hobbes, Locke et Rousseau, qui avance les théories du contrat social, pour rappel, c'est des théories qui s'appuient sur une espèce de fable philosophique, comme quoi autrefois régnait un état de nature entre les humains, et qui, notamment chez Hobbes, Claude Gauthier en avait amplement parlé il y a quelques années à l'Unipop. Chez Hobbes, c'est cet état de nature, il est marqué par la guerre de chacun contre tous. Mais au bout d'un moment, les humains se sont mis d'accord pour vivre ensemble de manière harmonieuse et pacifique en s'engageant mutuellement par un contrat, donc le fameux contrat social de Rousseau, un ensemble de règles établies collectivement qui doivent régir la vie en société. Bon. Alors Patman, elle critique assez vigoureusement ces théories du contrat social en soulignant qu'elles oublient systématiquement une dimension de la vie en société qui est la dimension sexuelle et par extension la dimension familiale, qui est certes régie par des contrats, cet aspect de la vie en société, par exemple le contrat de mariage, mais ce sont des contrats inégalitaires parce que systématiquement ils défavorisent les femmes. Et au besoin, ils vont défavoriser les femmes avec des arguments qui vont se référer à la nature. Alors précisément, cet état de nature que le contrat social il est censé dépasser. Et le contrat social pour Patman, c'est un contrat qui est établi entre hommes. Et un de ces objets, c'est l'assujettissement des femmes. Et donc, ce contrat social est indissociablement un contrat sexuel qui opère aux dépens des femmes, qui organise leur subordination. Alors, elle va étudier dans son livre plusieurs dispositifs contractuels, parmi lesquels le mariage et l'esclavage, mais aussi la prostitution, donc dans un chapitre intitulé « What's wrong with prostitution ?», ce que j'avais repris dans le titre du cours sous la forme « C'est quoi le problème avec la prostitution ?». Alors évidemment, une telle philosophe, avec ses points de départ, ne peut qu'être interpellée par ceux qui présentent et qui légitiment la prostitution comme un contrat entre un client et un prestataire, donc un ou une prostituée qui se mettrait d'accord sur un type de prestation contre en échange, une somme d'argent qui serait définie au terme d'une négociation entre les deux parties. Donc il y aurait un contrat, tu fais ça pour tant d'argent. Alors, si on poursuit ce point de vue, nous dit Patman, la prostituée est propriétaire de sa personne et en cède par contrat une part sur le marché. La prostituée ne se vend pas elle-même, mais elle cède par contrat l'usage de ses services sexuels. Donc dans cette vision, chacun, chacune doit pouvoir à la fois proposer des services sexuels sur le marché et en acheter. Ce qui est important, conformément à la logique du marché, c'est que chacun, chacune soit libre de le faire, soit en état de contracter, de passer un contrat avec un partenaire, et que la relation entre l'offre et la demande ne soit pas biaisée, par exemple en étant trop inégalitaire ou parce qu'il y en aurait un qui serait forcé à vendre des services sexuels, par exemple. Alors, il y a toute une série d'objections à ce type de représentation de la relation entre le client et la prostituée, des critiques qui sont connues, et on pourrait notamment rappeler Durkheim qui avertissait que tout n'est pas contractuel dans le contrat. En d'autres termes, qu'il y a des logiques sociales qui font que ce qui a les apparences d'un accord entre des partenaires égaux, c'est structuré par des rapports sociaux inégalitaires. J'évoquais à l'instant l'état du marché du travail, qui fait que le salarié, en tout cas celui qui cherche un emploi, il n'est pas en position égale avec le patron qui décide ou pas de lui offrir, qui lui impose en gros les conditions de travail et le salaire par exemple. Donc effectivement le contrat de travail il n'est pas totalement contractuel. Mais c'est pas là que porte la principale critique de Patman. Pour elle, ce type de critique, ça revient quand même à conserver l'idée du contrat tout en essayant de l'améliorer pour le rendre plus égalitaire. Le contrat, c'est bien, simplement, le problème, c'est quand il n'est pas suffisamment égalitaire. Donc, il faudrait rendre le contrat plus égalitaire. Mais sa critique est plus fondamentale parce qu'elle fait remarquer que les visions contractualistes de la prostitution présupposent que chacun, chacune peut s'y livrer soit comme prestataire de service, soit comme client. Et les théories contractualistes de la prostitution sont assez peu attentives au fait que dans la majorité des cas, les prostituées c'est des femmes, et dans une majorité encore plus grande de cas, les clients sont des hommes. Et donc ce qui se joue dans cette question, c'est pas la liberté de contracter, c'est le fait que le contrat sexuel suppose et intègre la mise à disposition de corps de femmes pour rendre service à des hommes. C'est-à-dire que ce contrat, il n'est pas un simple contrat entre individus anonymes et interchangeables, c'est un contrat entre des clients hommes et des prostituées femmes dans la majorité des cas. Et elle critique également le fait que l'idée, en tout cas, qui est aussi associée à, en tout cas défendue par les auteurs, les défenseurs contractualistes de la prostitution, l'idée que la prostitution répond à des attentes de satisfaction sexuelle. Et elle distingue de ce point de vue ce qui se joue dans les relations sexuelles sans amour, ce qu'on appellerait aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que parlent les jeunes, un plan cul, de ce qui se joue dans la prostitution. Dans le premier cas, il y a désir féminin, sans affect, mais avec la recherche d'une satisfaction érotique. Dans le deuxième cas, dans le cas de la prostitution, ce n'est pas l'échange mutuel de l'usage du corps de chacun en vue du plaisir, mais l'usage unilatéral du corps d'une femme par un homme en échange d'argent. C'est une citation. Le problème n'est donc pas un problème féminin qui toucherait les prostituées, mais un problème masculin, celui de ce qui motive les hommes à payer un accès sexuel au corps des femmes sur un marché. Alors, pour résoudre ce problème, elle aussi, elle va partir du parallèle entre travail salarié et prostitution. Et effectivement, elle aussi, elle va arguer que les deux situations sont comparables, mais jusqu'à un certain point seulement. Dans les deux cas, quelqu'un en paye un autre pour qu'il mette une partie de son corps à sa disposition pour un temps donné. L'ouvrier qui vend ses bras ou la prostituée qui loue son sexe pour un temps donné. Mais elle dit qu'il y a une différence quand même malgré tout, une différence essentielle qui réside dans le fait que le patron capitaliste n'a pas d'intérêt intrinsèque pour le corps et la personne du travailleur. Ce qui l'intéresse, le patron qui salarie un travailleur, ce sont les marchandises commercialisables que le travailleur est à même de produire. Mais finalement, peu lui importe que ce travailleur soit petit, soit grand, soit brun, soit blond, etc. L'important, c'est qu'il fasse son travail de manière à ce que ça fasse du profit. Et la preuve en est, nous dit Patman, c'est que le capitaliste, il peut parfaitement remplacer ses salariés par des machines. Et c'est même lorsque c'est possible ce qu'il fait. Parce qu'en plus, les machines présentent un certain nombre d'avantages. Elles se mettent pas en grève, elles revendiquent pas des augmentations de salaire. Voilà. Alors, je trouve c'est une remarque anecdotique, enfin incidente de Patman, mais je trouve qu'elle est intéressante. Elle dit, les machines, pour le capitaliste, le patron capitaliste, c'est intéressant pour tous ces avantages que je viens d'exposer. Ça présente quand même un inconvénient, je cite, « L'employeur a intérêt à ce que ses travailleurs soient des personnes, sans quoi il cesse d'être un maître et perd la jouissance de commander des subordonnés. » Cette citation, je pense que c'est une observation assez intéressante et stimulante. Qui vous entraîne pas sur le sujet de ce soir. Alors, cette réserve mise à part, le patron capitaliste donc se distingue du client dans le fait donc qu'il est indifférent à la personnalité de l'individu qu'il paye pour user de son corps. Alors que le client, lui, ce qui l'intéresse, c'est précisément cette personne. Et il ne peut pas remplacer cette personne par une machine, notamment. En tout cas, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la prostitution, nous dit Patman, c'est le corps d'une femme et l'accès sexuel à ce corps qui fait l'objet du contrat. Plus encore, je la cite, lorsqu'un homme conclut un contrat de prostitution, ce ne sont pas des services sexuellement indifférents et désincarnés qui l'intéressent, il achète l'usage sexuel d'une femme pour une période donnée. Fin de citation. Donc ce que le client achète, en d'autres termes, c'est le corps d'une femme précise qui lui a plu, qui l'a séduit pour telle ou telle raison, et c'est donc aussi sa personnalité qu'il va acheter, et ce que Patman appelle son moi. à la prostituée. Alors Patman, elle anticipe une objection à cette critique qui est assez simple. Hein. Elle consiste à dire, en s'appuyant notamment sur les témoignages des prostituées, qu'elles sont en mesure de dissocier leur personnalité propre du personnage qu'elles jouent sur le trottoir. Hein. Elles disposent, et nombreuses sont les prostituées à le dire, et je pense qu'il faut prendre leur parole au sérieux sur ce point. Les prostituées disposent de techniques de contrôle de soi qui leur permettent de mettre à distance leur vraie sexualité, celle qu'elles ont avec un compagnon ou une compagne, et puis ce qu'elles jouent avec les clients, qu'elles ne considèrent pas comme participant véritablement de leur sexualité. Une autre objection qu'on pourrait faire, c'est celle qui voudrait que la prostituée étant propriétaire de son corps, elle peut en user comme bon lui semble et éventuellement l'aliéner pour un temps donné contre rétribution. Et cette objection, hein, elle repose là aussi sur l'idée de la dissociation du corps et du moi, hein, avec un moi qui pourrait user librement de son corps. Alors Patman réplique à ces deux arguments, hein, qui sont liés l'un à l'autre, que, je cite, « le corps et le moi sont constitutifs l'un de l'autre ». C'est-à-dire que cette distinction, cette mise à distance du corps, hein, qui serait comme neutralisée pendant les passes, et cette dissociation d'avec le moi, d'avec la personnalité profonde, c'est impossible. Alors, pour ça, elle s'appuie tout d'abord sur Kant, qui affirmait que l'homme ne saurait être propriétaire de lui-même. Car l'homme peut effectivement être propriétaire de choses, d'objets, mais s'il devenait propriétaire de lui-même, il serait lui-même une chose en même temps qu'un sujet, ce qui serait contradictoire. Et il serait à la fois un sujet, un propriétaire, et un objet, c'est-à-dire la chose dont il est lui-même propriétaire. Donc il y aurait une contradiction logique. Première chose. Et puis, ça serait d'autant plus impossible, nous dit Patman qui prolonge Kant, s'agissant précisément du sexe, qui est un des éléments les plus importants de la construction des personnalités, des individualités. D'où l'idée que, je la cite à nouveau, lorsqu'une prostituée cède par contrat l'usage de son corps, elle se vend elle-même dans un sens tout à fait réel. C'est-à-dire que c'est son moi profond qu'elle vend sur un marché. Hein, parce que son sexe est constitutif de sa personnalité. C'est sa personnalité, c'est elle-même qui est vendue en même temps que l'accès à son sexe. Et donc la prostitution ne peut être considérée comme inoffensive ou anodine pour la personnalité, vu dans cette perspective. Hein. C'est le moi profond, vu qu'il est directement ancré sur le sexe et la sexualité, qui est vendu dans la prostitution. Et c'est aussi ce statut spécifique du sexe qui fait que, selon Patman, comparer la prostitution aux achats sportifs, hein, parce qu'il y a aussi cet exemple qu'on pourrait mobiliser, hein, quand on sait que l'OL va acheter tel, n'importe quel club sportif va acheter tel joueur pour tant de millions avec des sommes. Oui, c'est le corps qui est acheté, effectivement, mais c'est pas une dimension aussi constitutive du moins de l'individu que son sexe qui est acheté, hein, qui est objet d'un contrat. Et ce sont, dans la suite du livre, des arguments similaires qu'elle va développer pour condamner la gestation pour autrui. Hein. Alors, je ne développe pas sur ce point-là, mais je signale juste parce que c'est un sujet qui a été très, très débattu ces dernières années autour de, dans le prolongement de la contestation du mariage pour les couples de même sexe. Alors, dans la continuité de Patman, on va trouver une autre philosophe, cette fois américaine, qui s'appelle Christine Overall, O-V-E-R-A-2-L. Dans un article de 1992 dans la revue féministe Science, qui est une des principales revues féministes de langue anglaise, et elle prend la même interrogation pour titre, hein, donc What's wrong with prostitution, c'est quoi le problème ? Et elle va vraiment essayer de prendre au sérieux l'exercice, d'essayer de tester les différents arguments qui sont opposés à la prostitution, qui ferait qu'elle serait quelque chose de d'inadmissible dans notre société. Alors, par exemple, le fait que ça soit une activité dangereuse pour la santé, par exemple. Première objection, voilà, la prostitution, ça expose à des maladies comme la syphilis, etc. Aujourd'hui, on pense davantage au sida. Elle dit, c'est une objection qui tient pas, parce que d'autres professions sont elles aussi mauvaises pour la santé. On peut penser à intérimaires dans l'industrie nucléaire, par exemple, qui sont pas condamnés de la même manière. Hein. Et puis, dans certaines conditions, l'exercice de la prostitution peut ne pas être dangereux. Hein. Alors précisément, dans le cas que présentait O'Connell Davidson, prostituée qui maîtrise les interactions avec les clients, qui est en mesure d'imposer le préservatif, qui en a à sa disposition, etc. Autre argument, le fait que ça soit une activité contrainte, qu'on exerce faute de mieux. Là aussi, l'argument n'est pas suffisant, parce que c'est vrai que bien des prostituées sont forcées par des proxénètes, mais ce n'est pas le cas de toutes. Et puis, il existe bien d'autres activités professionnelles dans lesquelles les personnes, et spécialement les femmes, sont obligées de s'engager parce qu'il n'y a pas d'autres opportunités professionnelles. Hein, le travail à la chaîne, chez McDo, le nettoyage industriel, il y a un ensemble d'activités qui sont pas véritablement choisies sur le mode de la vocation. Autre argument, la prostitution, ça suppose une atteinte à l'intimité d'une personne sans engagement affectif. C'est une relation à sens unique, où il y en a un, le client, qui traite le corps de l'autre, la prostituée, comme un moyen en vue d'une satisfaction égoïste. Alors, effectivement, mais là aussi, Overhaul va souligner que ce n'est pas une spécificité de la prostitution, et que dans bien d'autres relations, conjugales ou autres, il n'y a pas d'affect, ni réciprocité du désir. Et la question de l'absence d'affect, si on poursuivait dans cette voie-là, ça devrait conduire à condamner des pratiques comme l'échangisme, la drague, ce que j'appelais tout à l'heure les plans cul. Là aussi, il n'y a pas d'affect, il y a juste la recherche d'une satisfaction érotique, mais il n'y a pas besoin d'être, comme dans la chanson de Brassens, on n'est pas tenu d'amener son cœur. Et puis, l'atteinte à l'intimité, une nouvelle fois, les prostituées nous disent que c'est pas si important que ça, parce qu'elles tiennent leur vie affective et sexuelle à distance, et elles définissent clairement la prostitution comme un travail distinct de leur vie privée. Et puis, la question de l'intimité, de l'accès au corps d'autrui, etc., ça se pose dans d'autres professions, celle de masseur kinésithérapeute ou de psychiatre, sur des niveaux différents, mais là aussi, on peut être éprouvé par le fait d'être en contact avec le corps d'autrui ou d'être en contact avec l'intimité d'autrui. Donc après ce passage en revue d'une série d'arguments qui sont communément opposés à la prostitution, le constat, ça pourrait être que la prostitution, en elle-même, elle n'est pas plus problématique que bien d'autres activités qui sont, elles aussi, pénibles, dangereuses ou dévalorisées. Et finalement, on pourrait en conclure que le problème tient plus aux conditions dans lesquelles la prostitution est exercée qu'à son essence, quelque chose qui serait omniprésent, quelles que soient les conditions. Et une prostitution exercée de manière indépendante, dans de bonnes conditions de sécurité, dans de bonnes conditions sanitaires, serait finalement acceptable. Mais Overhaul va pas s'arrêter à ce constat, parce que pour elle, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas avec la prostitution et qui interdit à ses yeux de la légitimer, et qui est le fait qu'elle est profondément et inexorablement inscrite dans les rapports de genre, c'est-à-dire dans ce qui est à la fois une division et une hiérarchisation entre le masculin et le féminin. Ce qui va poser problème de son point de vue, c'est le fait que ce soit des femmes qui soient socialement construites comme devant se placer au service sexuel d'hommes, dont les désirs ont été socialement construits comme impérieux et comme pouvant légitimement trouver satisfaction en payant. En d'autres termes, c'est parce que la prostitution reproduit une vision du monde divisée en masculin et féminin, avec les hommes qui ont les moyens et la légitimité de se payer les services sexuels des femmes, et avec les femmes assignées à la prestation de ces services. C'est pour ces raisons que la prostitution doit être condamnée par les féministes comme une institution à la fois capitaliste et patriarcale. Alors, c'est une démarche qui, à mes yeux, pose plusieurs questions, voire éventuellement des problèmes. Le premier, c'est l'argument qu'Overall tire du fait, qui est clairement établi, que ce sont en majorité des hommes qui sont clients et des femmes qui sont prostituées. C'est un constat qui est effectivement avéré, difficilement réfutable, mais il est également avéré que lorsqu'elles sont placées dans certaines conditions, certaines circonstances, les femmes peuvent reproduire la conduite des hommes, par exemple lorsqu'elles sont en mesure de payer les prestations sexuelles d'hommes placés de leur côté en situation de se prostituer. Alors, je reconnais que c'est tout à fait marginal, mais quand même, dans certaines zones touristiques, notamment des Caraïbes, c'est une prostitution qui se développe et qui est intéressante parce que ce sont des femmes blanches qui ont les moyens de voyager, de se payer des vacances dans les Caraïbes, qui vont se payer les services d'hommes noirs et pauvres. Ça ne remet pas en cause, à mon sens, des analyses comme celles de Patman ou d'Overall, mais ça invite plutôt à les complexifier en intégrant d'autres rapports de domination que le genre. Overall, ce qui lui pose problème, c'est le genre. C'est-à-dire que ça reproduit une vision, à la fois une division entre le masculin et le féminin, et en même temps une hiérarchisation entre ce masculin et le féminin. Mais il y a d'autres rapports que le genre qui sont à l'œuvre, et notamment des rapports inégalitaires de classe entre riches et pauvres, femmes riches, blanches et hommes pauvres, noirs, et des rapports de race, blanches contre noirs. Donc ce sont des logiques de complexification qui ont été travaillées par les théories dites de l'intersectionnalité ou de la consubstantialité des rapports sociaux, dont j'avais traité aussi à l'Unipop il y a quelques années. Ce sont des théories donc, qui complexifient les rapports sociaux, qui sont nées notamment, je pense que c'est intéressant, d'une critique qui a été adressée par les féministes noires américaines aux féministes blanches américaines, en leur disant, vous prenez pas en compte la spécificité des dominations qu'on subit en tant que femmes, certes, mais aussi que femmes noires et aussi de femmes pauvres. Donc, d'autres rapports de domination en plus de la domination de genre. Alors, une autre question qui peut se poser, elle tient à la place centrale de la sexualité et spécialement de la sexualité féminine dans les argumentations d'Overall et de Patman. Overall nous dit que la sexualité féminine, elle est construite socialement de telle manière que les femmes n'adoptent pas les conduites sexuelles des hommes, comme le recours à la prostitution. Et Patman, de son côté, nous dit que la sexualité, c'est l'une des dimensions qui articule le plus étroitement le moi et le corps. Alors, c'est un constat qui, je pense, est tout à fait juste s'agissant de nos sociétés, mais on pourrait imaginer que dans d'autres conditions sociales, cela pourrait changer. Si la domination masculine était profondément remise en cause et affaiblie, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que le recours de femmes à la prostitution exercée par des hommes, elle serait tout aussi condamnable à partir de ce moment-là? Pour le dire autrement, est-ce que la victoire du féminisme, au moins dans ce même domaine, ça devrait se traduire par un accès des femmes aux privilèges sexuels des hommes? Donc des femmes qui recourraient à une prostitution exercée par des hommes? Ou est-ce que ça serait que les hommes renonceraient à ce type de pratiques sexuelles et adopteraient des pratiques davantage en affinité à celles des femmes dans notre société actuellement? C'est une question que je laisse ouverte. De ce point de vue-là, moi j'ai pas de, en plus j'ai pas d'opinion sur la question, mais ça me semble intéressant de poser la question justement parce qu'elle naît de ce que j'ai dit sur le recours de femmes à la prostitution des hommes. Alors, l'autre question qui est posée davantage par Patman, en tout cas une autre question, c'est celle de la sexualité et de la manière dont elle est construite comme centrale dans la définition de l'individu et de sa valeur. Bourdieu disait dans un des rares textes qu'il a consacré à la prostitution, je cite, « L'amour vénal est le sacrilège par excellence en tant que vente du corps et commerce de ce qu'il recèle de plus sacré. » Deux points. « Le sexe de la femme est en effet socialement constitué en objet sacré, soumis à des règles strictes d'évitement ou d'accès. » Fin de citation. Alors, sacralisation du sexe féminin, qui fait que la prostitution, c'est une transgression, parce que c'est mettre sur le marché quelque chose qui devrait échapper à la marchandisation. Bon, sacralisation, mais dont on sait aussi qu'elle est ambivalente. Elle contribue à la dignité et à l'estime de soi de la personne, mais on sait aussi que cette sacralité, elle a été source d'oppression des femmes pendant des millénaires et dans une multiplicité de sociétés, hein, avec toute la focalisation, notamment dans les sociétés méditerranéennes, sur la virginité des filles. Hein. D'où la question que pourrait poser une désacralisation de la sexualité, spécialement féminine, ou pour parler comme Max Weber, son désenchantement. Hein. Est-ce qu'une normalisation, entre guillemets, des rapports sexuels contribuerait à légitimer la prostitution en lui faisant perdre son caractère transgressif, hein, du fait qu'on met quelque chose de sacré sur le marché? Ou est-ce que ça contribuerait à affaiblir la prostitution du fait que les opportunités de sexualité gratuite viendraient saper la rentabilité du sexe marchand, je dirais. Hein. Donc la sexualité deviendrait quelque chose de tellement ordinaire et commun qu'il n'y aurait pas besoin de payer pour ça. Bon, alors là aussi, j'ai pas de réponse, j'ai pas non plus j'ai pas d'opinion, mais il me semble qu'on s'orienterait plutôt vers la deuxième option, c'est-à-dire que la sexualité deviendrait quelque chose de moins sacralisé, d'un peu désenchanté, au sens de Max Weber, hein, pas au sens négatif, hein, de désenchanté, voilà. On constate, en tout cas, qu'à partir des études sur la sexualité des Français et des Françaises, que le recours à la prostitution, il a sensiblement baissé chez les hommes depuis les années 70, c'est-à-dire une période, comme par hasard, qui est marquée par l'émergence du mouvement féministe, une critique de la domination masculine et une transformation assez conséquente de la sexualité, avec notamment un accès plus large à la contraception et à l'avortement qui rend un peu moins crucial la question des pratiques sexuelles et la déconnexion entre la sexualité et la reproduction. Et par ailleurs, ces mêmes enquêtes sur la sexualité des Français, là je m'en réfère aux grandes enquêtes statistiques qui ont été menées à partir des années 90, il y a eu quelques précédents dans les années 70 qui permettent de comparer, mais c'est des choses qui se sont surtout développées à partir du moment de l'apparition du sida. Ces mêmes enquêtes permettent de constater un progressif rapprochement entre les sexualités féminines et masculines, notamment en ce qui concerne le multipartenariat et les pratiques sexuelles, même si ça reste encore, il y a encore des inégalités assez marquées. Donc voilà, juste à titre hypothétique qui resterait à confirmer, mais on s'orienterait peut-être vers un déclin de la prostitution du fait des transformations, des pratiques et des représentations de la sexualité. Alors voilà, j'ai présenté jusqu'à présent les positions hostiles à la prostitution, hein, positions qui se réclament du féminisme, à la fois le féminisme radical la semaine dernière, et puis donc O'Connell Davidson, Patman et Overhaul parmi les principales. Je vais maintenant passer à des réflexions qui donnent une image plus favorable de la prostitution, même si c'est avec des nuances ou des limites. Alors, on va ici retrouver des courants qu'on a déjà rencontrés, comme ceux des féministes libertaires ou pro-sexe, et ça va être l'occasion de les aborder un peu plus en détail. Alors, ces réflexions qui se réclament aussi du féminisme, hein, il n'y a aucun des camps qui est le monopole du féminisme, hein, qui est, comme tout mouvement, à la fois social et intellectuel, est traversé par des lignes de fracture. Alors, ces réflexions des féministes libertaires ou pro-sexe, elles se sont en partie développées autour de l'éventualité de considérer la prostitution comme un travail comme les autres, et en quelque sorte un travail qui serait à normaliser socialement et moralement. Alors, et un facteur qui a beaucoup joué dans le développement de ce courant de réflexion, ça va être l'émergence des mobilisations de prostituées qui se sont organisées pour faire entendre des revendications exprimées en leur nom propre. Hein, il y a l'émergence d'une prise de parole autonome des prostituées, quelque chose de relativement récent. C'est-à-dire, jusqu'à présent, elles étaient parlées par d'autres. Elles commencent à parler en leur nom propre et notamment à des moments importants de cette émergence d'une parole des prostituées. C'est ce que j'ai déjà évoqué la semaine dernière, ça va être la révolte des prostituées de Lyon qui en 1975 ont occupé l'église Saint-Nizier pour protester contre la répression policière. Alors, c'est une mobilisation qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque, y compris au niveau international, parce que pour la première fois, des femmes qui étaient supposées parmi les plus dominées et les plus indignes osaient prendre publiquement la parole. Hein. Pour autant, c'est un mouvement qui a été incapable de s'inscrire dans la durée. Hein, ça a été une espèce de feu comme ça, mais très très court. D'autant plus que les principales porte-paroles ont rapidement profité de leur notoriété nouvelle pour quitter le trottoir, ce qui a laissé planer un doute. C'est-à-dire que si la prostitution, c'est, comme elles le prétendent, une activité légitime, pourquoi elles n'y restent pas ? Hein, ça posait quand même une interrogation logique. Alors, par contre, donc le mouvement des prostituées françaises qui est des années 70, qui a une espèce de coup d'éclat, mais qui fait long feu. Ce qui, par contre, aura une certaine postérité, c'est une initiative californienne, celle d'une association fondée à San Francisco en 1973, une association qui s'appelle Call of Your Old Tired Ethic, ce qui donne comme acronyme Coyote, et qui veut dire, en gros, débarrassez-vous de votre vieille morale fatiguée. C'est une association qui a été fondée par Margot St. James, qui, à l'époque, était une jeune femme, on va dire, qui fréquentait la bohème de San Francisco tout en se prostituant occasionnellement, et puis qui a fondé Coyote après avoir été arrêtée par la police, puisque la prostitution est interdite aux États-Unis, sauf dans une partie du Nevada. Et une des revendications centrales de Coyote, ça sera par conséquent la décriminalisation de la prostitution et sa reconnaissance comme un métier comme un autre. Et c'est une autre prostituée un peu particulière, américaine, aussi artiste et performeuse, Carol Lee, qui a inventé à la fin des années 70 l'expression de travail du sexe, pour désigner en même temps que légitimer l'ensemble des activités commerciales qui ont à voir avec le sexe. Hein, c'est-à-dire, on regroupe et puis on légitime, par la référence au travail, un ensemble d'activités comme la prostitution, mais aussi la porno, le striptease, les messageries érotiques, etc. Alors, ces revendications de reconnaissance du travail du sexe, ou en anglais sex work, elles vont être portées depuis les années 80, par différentes organisations un peu partout dans le monde. Elles vont être notamment portées par le Comité international pour les droits des prostituées, qui va tenir en 83 et 84 successivement, donc à Amsterdam en la première année et puis au Parlement européen à Bruxelles en l'année suivante, ce qui va faire un petit peu scandale. Le Parlement européen transformé en bordel, c'était quand même assez... ça a été perçu comme tel. Donc deux congrès internationaux qui vont permettre à ce comité international de produire une charte pour les droits des prostituées qui est encore souvent invoquée de nos jours et qui revendiquait là encore la complète décriminalisation de la prostitution ainsi que l'accès des prostituées à un certain nombre de droits fondamentaux. On pourrait dire, bref, c'est un peu banal ce qu'elles revendiquent, sauf que ces droits fondamentaux sont loin de leur être partout garantis. Alors, en tant que tel, ce comité international, il a disparu aujourd'hui, mais des groupes de prostituées existent désormais un peu partout, en Angleterre, en Thaïlande, au Mexique, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, en Inde, dans beaucoup de pays. Alors, pour le cas de la France, les associations de prostituées, les organisations de prostituées, elles ont eu un peu de mal à se mettre en place. Et par exemple, aucune organisation française n'était représentée aux deux congrès du comité international. Il y avait eu une association parisienne qui s'est transformée en Association nationale des prostituées au tout début des années 80, qui avait été soutenue par le planning familial, mais qui s'est assez vite dissoute. Hein, donc voilà. Alors c'est avec la création des associations de santé communautaire dont j'ai parlé la première séance. C'est avec la création donc de ces associations de prévention du sida au début des années 90 qu'un discours de revendication des droits des prostituées a commencé à se faire entendre. Et je dirais les premières porte-parole des prostituées, mais porte-parole prostituées qui sont issues de ces associations. Alors, par parmi elles, on peut citer Camille Cabral, qui était responsable du PAST, donc une association à destination des travestis et transsexuels parisiens et parisiennes, et Claire Cartonnet à Lyon, qui était issue de Cabiria. Alors, lorsqu'une mobilisation contre la loi sur la sécurité intérieure a émergé en 2002, les associations de santé communautaire se sont mobilisées, mais elles ont aussi laissé la place à de nouveaux groupes militants qui entendaient mener une action protestataire totalement autonome. Différents groupes sont nés à ce moment-là, donc au moment de la loi Sarkozy, la réintroduction du racolage passif, notamment Femmes Publiques, mais le principal groupe aura été Les Putes, qui a été donc l'idée de reprendre le stigmate et de l'arborer fièrement, qui a été fondée en 2006 par deux prostituées hommes anciens membres d'ACT UP, Maîtresse Nikita et Zézé Tastar. C'est un pseudo, évidemment. Alors Les Putes a ensuite donné naissance en 2009 au STRAS, le syndicat du travail sexuel, qui a repris ses revendications d'abrogation du racolage passif et de reconnaissance du travail sexuel, d'où évidemment la référence au registre syndical. Alors le STRAS, bien évidemment, il est en guerre ouverte contre les abolitionnistes, et notamment avec le mouvement d'Uni. Alors c'est pas évidemment pas la seule raison, mais le STRAS était originellement émanant des Putes, avait deux porte-paroles hommes ou trans. Alors le Uni disait, vous voyez, c'est pas représentatif parce que la prostitution est majoritairement féminine, et donc maintenant, c'est une femme, Morgane Merteuil, donc qui est aujourd'hui sa principale porte-parole. Alors, le STRAS a un écho médiatique certain. Il a aussi une certaine légitimité, puisque les députés qui ont conduit en 2011 une mission d'information sur la prostitution ont auditionné ses représentants, mais reconnaissance, je dirais, purement formelle, parce que ces mêmes députés ont totalement intégrer les arguments abolitionnistes et n'ont pas du tout tenu compte des positions de ce syndicat. Voilà, pour vous présenter un peu le contexte aussi, brièvement et schématiquement, de la mobilisation, de l'apparition d'une reconnaissance du travail du sexe. Alors, s'agissant cette fois davantage de la réflexion intellectuelle autour de cette position, j'avais déjà indiqué qu'elle venait d'abord des féministes libertaires ou pro-sexe américaines qui, à l'inverse des radicales, poser que différentes pratiques sexuelles pouvaient, à condition d'être consenties, conduire vers une émancipation sexuelle des femmes en leur permettant de se débarrasser des normes puritaines qui pèsent sur leur conscience et qui les empêchent d'accéder à un véritable épanouissement érotique. Alors, parmi ces pratiques, celles qui sont socialement définies et stigmatisées comme déviantes sont importantes parce qu'elles permettent précisément d'expérimenter de nouveaux rapports érotiques avec autrui. De nouvelles sensations, de nouvelles identités. Alors, c'est notamment le cas du sadomasochisme, qui permet d'expérimenter une position de domination. C'est le cas de l'homosexualité, qui s'abstrait du référent masculin. Mais c'est aussi le cas de la prostitution qui permet, là aussi lorsqu'elle est exercée de manière autonome et maîtrisée, qui permet un renversement des rapports de pouvoir et l'accès à des privilèges sexuels réservés aux hommes. Alors, parmi ces privilèges sexuels, il y a le multipartenariat, mais il y a aussi le fait que, dans l'interaction avec leurs clients, ce sont les femmes prostituées qui auraient le pouvoir. Ce serait elles qui décideraient d'accepter ou pas le client, qui décideraient de la nature de la prestation, qui décideraient des conditions de réalisation de la prestation, etc. Et puis, leur sexualité se verrait reconnaître une valeur puisqu'elle est dotée d'un prix. Alors, c'est le cas dans la prostitution, c'est aussi le cas dans la pornographie, qui est un des rares secteurs professionnels où les femmes sont significativement mieux payées que les hommes. Et puis, pour celles qui ont subi des violences, qui ont eu une vie conjugale insatisfaisante, ça serait un changement positif puisqu'elles ne subiraient plus la sexualité masculine, mais elles la contrôleraient et en retireraient des moyens d'existence. Alors, une auteure importante de ce courant, c'est la féministe américaine Gayle Rubin, R-U-B-I-N, qui est notamment spécialiste des communautés homosexuelles sadomasochistes, notamment dans un article de 1975 qui a été traduit en français sous le titre « Marché au sexe », alors qui a été publié dans un livre qui lui aussi a le titre « Marché au sexe, qui est complété avec un dialogue avec Judith Butler. Alors, Robin est pleinement libertaire ou pro-sexe et elle se fait la défenseure de toutes les sexualités à partir du moment où elles sont exemptes de contraintes. Hein? Alors, je la cite, « Une morale démocratique devrait juger les actes sexuels d'après la façon dont les partenaires se traitent, le niveau de considération mutuelle, la présence ou l'absence de coercition, la quantité et la qualité des plaisirs qu'ils provoquent. Que ces actes sexuels soient homo ou hétéro, qu'ils aient lieu en couple ou en groupe, dans la nudité ou avec des sous-vêtements, qu'ils soient vénaux ou gratuits, qu'ils fassent ou non recours à la vidéo, ne devrait être un critère éthique pour personne. » Fin de citation. Alors, dans le même article, Rubin, elle s'inspire notamment de la théorie de Lévi-Strauss de l'échange des femmes. Alors, selon Lévi-Strauss, hein, donc, célèbre anthropologue français, je l'avais déjà un peu évoqué dans une séance d'une autre année. Selon Lévi-Strauss, ce qui fonde l'humanité, c'est l'échange. Hein, c'est l'échange de signes, notamment le langage, des sons qui sont dotés de sens, l'échange de biens, c'est-à-dire le don et le contre-don, et puis le commerce, et puis l'échange des femmes, c'est-à-dire l'interdiction de l'inceste. Hein. L'interdiction de l'inceste, c'est quoi? C'est l'obligation de donner une femme de son groupe, de sa famille, pour faire simple, pour en recevoir une d'un autre groupe. Alors, dans cette théorie, évidemment, hein, ce sont les hommes qui s'échangent des femmes. Les hommes sont les sujets de cet échange, et les femmes en sont les objets. Or, nous dit Rubin, certaines pratiques sexuelles transgressent cette réduction des femmes au statut d'objet échangé entre hommes, lorsque ces femmes reprennent le contrôle de leur sexualité. Et ce qui pourrait être le cas dans toutes les pratiques que j'ai évoquées, et notamment dans la prostitution. Alors ici, on va retrouver quelqu'un que j'avais évoqué dans le premier cours, c'est-à-dire Foucault, mais pas le Foucault que j'ai évoqué dans le premier cours, mais celui qu'on appelle le dernier Foucault, celui des deux derniers tomes de son Histoire de la sexualité, c'est-à-dire Le souci de soi et l'usage des plaisirs, qui sont sortis tous les deux, hein, qui ont été tous les deux publiés en 1984. Alors, ces deux livres qui sont consacrés respectivement à la Grèce et à la Rome antique, où Foucault envisage la sexualité comme un des terrains où se constitue le sujet, c'est-à-dire un domaine où l'individu se constitue en tant que tel, comme objet d'une réflexion et d'une attention qui sont portées à lui-même. Hein, avec tout ce qui est développé par les philosophes de l'Antiquité en matière de sexualité, la question de l'hygiène des plaisirs, de leur rythme, de leur nature, de leur qualité, etc. Hein. Et donc je dirais pour les féministes dans ce courant de réflexion, la sexualité, c'est un domaine où on peut se construire comme sujet. Mais comme pour les femmes, dans une société patriarcale, il faut pour cela surmonter toute une éducation puritaine et contraignante, ça passe de manière privilégiée par la transgression des normes sexuelles. Et, par exemple, consommer de la pornographie, ça peut permettre de faire remonter à la conscience des fantasmes qui ont été enfouis, occultés, par le moralisme réducteur d'une éducation patriarcale et puritaine. Donc on reste dans une optique, féministe et d'émancipation sexuelle, mais simplement en renversant la focale par rapport au radical, c'est-à-dire que prostitution, pornographie, etc., c'est pas des lieux d'oppression, ça peut être des lieux de créativité et de redécouverte ou de construction, de créativité de sa sexualité. Alors, bien évidemment, cette représentation peut paraître idyllique, et elle peut ne pas correspondre à ce que vivent bon nombre de prostituées qui sont contraintes par exemple par un proxénète, par la pauvreté, et qui ne contrôlent pas aussi clairement leur activité, qui ne sont pas toujours en mesure de sélectionner leurs clients. Mais ça ramène au point que je signalais précédemment. Est-ce que la prostitution est en soi inévitablement un rapport de domination, ou est-ce que dans certaines conditions elle peut devenir une activité positive? Alors, dans le premier cas, la prostitution, la conclusion, c'est qu'il faut combattre toute prostitution, parce que inexorablement, sous toutes ses formes, et quelles que soient ses conditions, c'est quelque chose qui relève de l'oppression. Dans le deuxième cas, il faut lutter pour que ces conditions de cet exercice favorable de la prostitution soient réunies. Hein. Ce qui serait, par exemple, le rôle des organisations de prostituées comme le STRAS, hein, avec l'idée la vocation syndicale d'améliorer les conditions de travail des travailleurs. Alors, une nouvelle fois, je vais faire que poser les termes et les enjeux du débat. Hein, je ne suis pas là pour vous amener à rejoindre mon opinion sur le sujet, si tant est que j'ai une opinion tranchée sur cette alternative. À la fois, moi je suis hostile aux positions essentialistes parce qu'elles sont ahistoriques et parce qu'elles bloquent la réflexion en interdisant d'appréhender les variations historiques des phénomènes, hein, parce que la réflexion elle est vite vue, hein, c'est la prostitution est une oppression, point barre. Donc vous pouvez dire oui mais dans tel contexte, non point barre. Donc et souvent dans les débats on a cet argument d'autorité, c'est-à-dire on pose en point de départ ce qu'il faudrait au contraire démontrer, hein, montrer que c'est variable sous toutes les latitudes, sous toutes les époques, etc. Donc c'est un obstacle à la réflexion, les positions essentialistes qui disent voilà c'est une oppression ou l'inverse, hein, c'est en soi ceci ou cela. Et dans le même temps, je suis également réticent devant une vision qui s'appuie sur les situations les plus minoritaires, sur le cas des prostituées dans la situation la plus favorable, mais qui sont pas forcément les plus nombreuses, et qui sont peut-être même les situations les plus minoritaires, hein, celles de ces prostituées qui trouvent leur compte, qui sont indépendantes, autonomes, qui vivent bien leur activité. C'est pas forcément les situations majoritaires, il y a peut-être une raison pour laquelle ce sont au contraire des positions minoritaires. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ce sont des pistes de réflexion qu'on va poursuivre la semaine prochaine dans la dernière séance. Mais j'ai déjà trop parlé pour ce soir et je vous laisse la parole. Merci.